Puis le français que vous pratiquez aujourd'hui n'a rien à voir avec cette langue d'origine non plus.
Non.
Ouais. Je comprends. Remarquez bien que mon français d'origine n'était pas identique non plus au plan du niveau de la langue à celui que je pratique aujourd'hui. Il était sans doute à mi-chemin entre ce que vous avez connu à Providence, Rhode Island, et ce que j'ai connu, moi, dans mon Nicolette natale. C'est-à-dire, moi, que je suis héritier d'une langue française archaïque, provinciale et ancienne. Je l'ai découvert par la suite en lisant des livres savants là-dessus et en constatant que la conquête anglaise, nous ayant privés de toute évolution naturelle et normale de la langue qui continuait à se pratiquer en Europe, ici, notre langue à nous, là-bas, était restée figée, mais en même temps, relativement pure, précisément. Cet arrêt subi, cette congélation de la langue dans la banquise nord-américaine, lui avait gardé sa pureté.
C'est-à-dire le français.
Oui, lui avait gardé sa pureté.
Et vous n'aimeriez pas écrire en québécois?
C'est des choses très sensibles que vous évoquez là maintenant, j'aurais le sentiment finalement d'en mettre trop et de vouloir faire du pittoresque à tout prix. Je ne veux pas nier ma culture de base, bien sûr, ni mon identité profonde, mais je ne veux pas être un clown qui monte sur la table non plus et qui montre les pièces de toutes les couleurs de son vêtement. Je pense qu'il est plus important pour un écrivain de finir par décrire l'invisible que de montrer les particularismes colorés de
oui,
sa langue.
C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais nous avons un grand avantage, quoi, parce que...
Vous croyez-vous qu'on a un avantage?
Oui, parce que c'est tout à découvrir pour nous.
Superbe. Félix Leclerc dit d'ailleurs justement, et j'aime beaucoup le répéter souvent, les mondes à découvrir sont dans la goutte d'eau. Pas nécessairement parfait. Besoin d'aller sur la Lune.
Oui, parfait. Non, c'est ça qui m'inspire. Je pense toujours qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne connais pas, et c'est là. Même si c'est un peu abstrait, une sensibilité, c'est là et c'est à découvrir.
Est-ce que l'un des assistants à cet entretien, des frères québécois, a envie d'intervenir? Anne-Marie? Anne-Marie Gara?
Oui, j'ai été très émue, très frappée par ce que vous avez dit tout au début et qui a trouvé tellement d'écho au sujet de cette scène que vous évoquiez, qui est celle de la clairière, de cette hostie dans la forêt, et dont vous avez dit, au fond, c'est une image dont il peut venir un livre. Une image dans laquelle je peux puiser, mais qui est en même temps une image invisible. Et moi, ça m'a beaucoup frappée parce que, à cause du mot « image », qui pour moi correspond à quelque chose de très personnel, de très profond aussi, d'une expérience d'enfance, au moment où, et je reviendrai là-dessus, sur l'enfance, au moment où nous sommes au spectacle de quelque chose qui est en représentation et dont le sens est énigmatique, et pourtant dont nous sentons que nous sommes en totale participation avec ce qui a lieu. Et il me semble que ce n'est pas là une question de remonter dans l'inconscient, dans une sorte d'apprentissage au sens psychanalytique, je dirais, mais plutôt de cosmique, comme un moment privilégié, et c'est presque anthropologique, je dirais, l'enfance. Un moment où nous pouvons être, non pas dans l'innocence, qui serait, bon, ce serait une valeur morale, mais je dirais dans l'ignorance. Il y a des savoirs non constitués en nous, et peut-être ce sont des savoirs des sens, qui nous permettent d'accéder, et de manière magique, à un sens du monde, qui ensuite va faire l'objet de notre travail d'écrivain. Moi, je me sens très très fort comme ça, dans une parenté avec vous, dans ce pays noir, dans ce pays dont des images latentes peuvent monter, dont je ne connais pas l'origine, mais qui font déjà sens pour moi. Et de mon côté, j'utiliserai plutôt, parce que c'est ce qui m'a travaillé le plus récemment, mais c'est une longue histoire, la photographie. Je crois que je sais ce que je fais quand je suis dans la chambre noire en train de développer de la photographie. de faire quelque chose qui m'échappe. Quand je dis je sais ce que je fais, je sais que je ne sais pas ce que je fais avec la lumière qui va donner une image, qui va produire une image. Je travaille la lumière qui est un corps immatériel et qui va faire matière, qui va donner des noir et blanc et produire quelque chose que je ne sais pas encore. C'est ce que j'appelle les images latentes enregistrées en nous, dans une sorte de ventre noir. Et vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes là-bas dans l'obscurité quand vous dites dans votre travail d'écrivain québécois. Mais je crois qu'on partage ce pays-là. C'est un pays d'enfance. Et vous voyez, je ne veux pas angéliser le discours, là, et dire que, bon, c'est bien connu, les écrivains ne font que travailler sur leur enfance et tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Mmh. Je crois qu'on a des expériences, je dis anthropologiques, parce qu'on partage là de l'humanité. On a part à la grande entreprise humaine et on rejoue. Et au fond, la langue que vous cherchez, que vous avez perdue et oubliée, moi, je crois qu'on l'a tous en nous aussi. Cette parole qui n'a pas encore les mots, pour lesquels, dans les mots prêtés, dans les mots acquis, ceux de la famille, entendez au sens large, hein, et celle de la culture, qui vont nous être donnés ou comme ci ou comme ça, il va falloir, sous cette langue-là, inventer la nôtre pour faire monter les images latentes.
Oui. Oui, et aussi, je sépare absolument la psychologie et je ne sais pas quoi d'autre. Et aussi, ça vient de ma culture, parce que je viens d'une famille ouvrière. Et pour nous, la psychologie n'existait pas. Dieu essayait de résoudre.
Dieu avait écrit le manuel.
Oui, c'est ça. Et donc, quand j'étais jeune, on a prié à Dieu d'essayer de résoudre nos problèmes. Et je ne crois pas en Dieu. Mais quand même, je n'ai pas l'habitude, ce n'est pas dans ma culture d'essayer d'approfondir mes problèmes psychologiquement. J'ai réussi à dire ce mot. Je sépare ces deux mondes complètement. Je ne sais pas.
À mon avis, c'est à la frontière entre ces deux mondes, comme quand les nuages s'entrouvrent à l'horizon en fin de journée, qu'on verra finalement apparaître la lumière. Et ce ne sera nécessairement pas une lumière qui va nous écraser d'en haut, mais ce sera une lumière qui sera à notre hauteur, une lumière qui va nous regarder dans les yeux, une lumière qui va nous passer par-dessus les épaules, et qui, à mon sens, et je ne vais pas faire une formule pour clore l'émission, mais s'il devait y en avoir une, ça pourrait être celle-là, c'est-à-dire une lumière qui éclairait suffisamment loin pour nous faire prendre conscience que nous sommes un certain nombre autour de cette table à partager un même pays.
Oui.
Et qu'il n'a vraiment, mais alors là, vraiment rien à voir avec la géographie.
Oui. Oui. D'accord.
David Plante, après deux jours de réflexion et de convivance avec Louis Caron et de discussions et de parlotte, vous avez une question à lui poser.
Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Si sa culture se trouve principalement ou même totalement dans sa langue ou non?
Bonne question, ça, David. C'est pas une question, c'est une montagne. À vrai dire, si on résout cette question, il n'y en a plus d'autres. Je vais commencer par préciser quelque chose. Je fais depuis 6 mois une tournée de conférences en France sur le Québec. Et à l'intérieur de cette conférence, au chapitre historique, je dis qu'à certaines époques, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que nous avons rejeté le passé en bloc, et que nous avons rejeté en particulier cette conviction qu'il y avait un lien absolument indissoluble entre la religion et la langue. Or, on a découvert, depuis que nous avons rejeté la langue, que nous n'avions jamais, que nous avons rejeté la religion, dis-je, que nous n'avons jamais été aussi près du cœur du problème de la langue, donc c'était indissociable. La question qui m'est posée aujourd'hui est peut-être la plus vicieuse à laquelle j'ai à faire face devant l'histoire, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai longtemps confondu identité québécoise et langue française, c'est entendu. Mais par ailleurs, ce que nous avons vécu ensemble depuis 2 jours ici, et ce qui s'est dit entre nous deux, et en particulier ce qui ne s'est pas encore dit, c'est-à-dire ce qu'on devine dans nos gestes et dans nos regards et dans nos ébauches de compréhension, témoigne que nous avons tous les deux, de façon évidente, une identité québéco-nord-américaine qui n'est pas fondée sur la langue. Alors, je ne répondrai pas à votre question parce que je n'en possède pas encore la réponse, mais je vous renvoie un doute considérable sur l'infaillibilité de la langue en ce qui concerne l'identité québécoise. D'autant plus que bientôt, effectivement, la terre entière et cette partie du continent nord-américain, comme le reste, sera peuplée de Chinois, de Vietnamiens, d'Arabes, d'Haïtiens et de gens de toutes les parties du monde. Le seul problème que j'ai avec votre question, c'est que s'il n'y a plus de langue française au Québec, ou en tout cas, si le Québec ne tient pas ensemble, comme les pierres d'un mur, par le ciment de la langue française, je ne veux pas non plus que ce ciment soit remplacé par la langue américaine. Je veux bien que ce soit une ouverture multiple sur le reste du monde, mais pas le rouleau compresseur de l'américanisation universelle.
Jean, puis-je vous demander ce que vous en pensez?
Oui, moi je suis un témoin en tant que journaliste invité à cette rencontre. Je me demande s'il n'y a pas aussi le mot sensibilité dans les questions que vous vous posez. Le mot culture est vaste, il contient une politique, donc il ne s'agit pas, si on fait de la langue une question politique, je dirais non à votre question. Si la culture est une sensibilité, une vision du monde à partir d'un apprentissage du sentiment d'être au monde, je dirais que non, ce n'est pas une question de langue. Mais sur un plan planétaire, la même culture peut renfermer plusieurs langues. Et je crois que le Québec pourrait en être à ce regard sur son identité. Donc, David Plante, vous seriez pour moi, même si vous vivez à Londres, même si votre père parlait un français que vous ne parlez pas, mais je remarque que vous parlez quand même le français, vous seriez pour moi un écrivain québécois, d'une autre langue, mais d'une même sensibilité.
Oui, ça j'ai trouvé aussi. Mais 2 mois au Québec était vraiment une découverte à ce point de vue, parce que je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie même que j'étais québécois. Mais sans la langue. Et je dis que j'ai une identité franco-américaine. Et si je n'écris pas en français, c'est quoi cette identité franco-américaine? Et j'essaie de la définir avec ma religion, parce que ça me reste, pas que je crois, mais parce que j'étais formé par ma religion. Mais ça aussi c'est très complexe parce que je ne crois pas en Dieu. Et donc je ne veux pas, disons, baser ma sensibilité québécoise sur quelque chose dans laquelle je ne crois pas. Je ne sais pas où ça mène, tout simplement.
Ça, c'est jeter doublement le bébé avec l'eau du bain, en ce sens que si la sensibilité québécoise n'est pas fondée sur la religion, ou n'est plus fondée, en apparence du moins, sauf pour ce qui est des racines bien profondes, si la sensibilité québécoise n'est plus fondée sur la religion, et si elle n'est plus fondée sur la langue française non plus, Vous allez nous forcer, nous contraindre à définir ce qui est vraiment spécifique à notre façon de concevoir la vie et l'existence dans ce coin de l'Amérique du Nord. Et probablement que votre contribution à vous, qui êtes le grand étranger, avec un E majuscule, dont j'ai signalé l'existence, viendrait nous contraindre et nous forcer à nous révéler à nous-mêmes ce qu'on n'avait pas encore commencé à comprendre.
C'est le survenant. David Plante est le survenant.
Voilà. Le survenant est le personnage d'un roman de Madame Germaine Guevremont. C'est un homme qui vient de nulle part, qui n'a pas une identité précise, et qui vient effectivement faire irruption dans un monde clos, un monde fermé, un monde organisé, un monde replié sur lui-même, et qui apporte un grand vent du dehors et qui va bouleverser les certitudes en jetant chacun face à ses propres inquiétudes à soi. Un survenant, c'est quelqu'un qui repart par ailleurs et qui ira faire le même coup ailleurs chez quelqu'un d'autre.
Je connais bien le roman, oui.
Voici le gars qui revient de loin, qui a vu le monde et qui nous regarde agir et qui dit « Mais vous avez vraiment une manière particulière de faire les choses. »
Très particulière. Très particulière. Même étrange. Mais il faut se distancer pour voir cette manière particulière. Et oui, peut-être, je me distance et je vois le Québec d'un point de vue qui n'est pas tout à fait québécois, mais en même temps, pour moi personnellement, relève un Québec qui est vrai, qui est riche, qui est évoquant, qui me suggère beaucoup, 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 et qui m'inspire d'écrire.
Savez-vous une chose? J'écoutais tout à l'heure René de Pestre, à qui on posait la question, mais pourquoi ne entrez-vous pas chez vous maintenant en Haïti, puisque personne ne vous fera de mal là-bas, et qu'on ne vous mettra pas en prison? Et de Pestre dit, moi, je ne vais pas rentrer chez moi parce que le monde que je porte en moi n'existe plus. Et que le Jacmel, notamment, c'est le nom du village qu'il a habité à l'origine, et il est plus vrai en moi maintenant que dans la réalité géographique et sociale de ce pays. J'ai donc en même temps le sentiment, quand je vous entends parler, que le Québec que vous évoquez n'existe plus. En fait, que cette réalité française d'Amérique du Nord, là, du Nord-Est, qui recouvrait la province de Québec et les États du Nord-Est américain, n'existe plus. Et qu'en même temps, vous êtes en train de nous précipiter par vos exigences et parce que vous n'arrivez pas encore à nommer clairement, d'ailleurs, et je vous en fais pas reproche parce que moi non plus, je ne sais pas le nommer encore, dans un Québec qui est en train de se faire et qui est en devenir. Quel livre vous écririez demain sur le Québec? Le livre du passé ou le livre de l'avenir?
Ça, je ne sais pas. On ne sait jamais. On essaie de l'écrire, tout simple. J'essaie d'inventer un Québec. J'essaie maintenant d'écrire un roman qui s'appelle Le Centre. Et c'est basé plutôt sur mes fantasmes de l'histoire québécoise de mes ancêtres. Je n'ai pas lu sur l'histoire, j'ai pensé tout simplement d'employer mon imagination et de ne pas forcer mon imagination non plus, mais de laisser les images viennent comme ça. Et si, je ne sais pas dire, mais si une image me dit quelque chose, je l'emploie. C'est un instinct, tout simplement, rien d'autre. Je ne peux pas le justifier par l'histoire, parce que je ne connais pas l'histoire québécoise vraiment. Je dois employer cet instinct pour à justifier les images qui me disent quelque chose.
Superposer les images, finalement, les mettre les unes par-dessus les autres et voir quel dessin surgit de là?
À la fin, oui. À la fin, oui. Oui.
Ça rejoint le début de notre conversation. Ça rejoint exactement le début de notre conversation, au moment où moi je disais, ce que je vais faire maintenant, vous, vous superposez des images. Moi, je vais superposer des couches historico-sociales, et en particulier dans le temps, les unes aux autres, de telle sorte que le pays se voit comme une maquette en transparence. Oui. Vous avez parlé de cette image de la célébration eucharistique dans la forêt, oui, avec les Indiens qui observent. Là. Cette image me touche évidemment, je ne vais pas la prendre et vous la voler pour la mettre dans mon livre à moi, mais je vais vous rattraper et vous relancer dans mon livre à moi aussi, parce que vous avez donc un Indien, des Indiens dans votre univers qui sont dans la forêt, qui écoutent et qui observent l'irruption d'un monde nouveau. Oui. Et moi, dans le mien, mon roman, comme on dirait au Québec, sans vendre le punch tout de suite, là, je vous dirai que j'ai un personnage d'Amérindien acculturé qui vit en 1992 ou 1993 dans les montagnes des Catskills au nord des États-Unis et qui, lui, a la faculté de voir en arrière, au-delà du temps, sur le lieu où il se trouve. Et il sait toujours ce qui s'est passé à son époque, à lui, là où on va, dans une rue de New York ou dans une montagne des Catskills. Et ce personnage fera exactement ce que vous proposez, c'est-à-dire qu'il va superposer l'image du passé au présent, à mon sens, à la seule fin de définir l'image de l'avenir.
Oui. Et du point de vue indien, ces Indiens qui se trouvent dans la forêt, cette cérémonie d'élévation de l'hostie est beaucoup plus bizarre pour eux que leur propre cérémonie. Et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'on se déplace. On peut prendre des différents points de vue comme ça. Non, je trouve que c'est très important, cette culture. Si j'emploie le mot culture un peu trop vaguement, mais quand même, c'est un mot. Mais la culture indienne est très importante pour nous. Moi, comme j'ai une arrière-grand-mère qui est un pied noir, je le sens toujours derrière moi. Elle est toujours là. Même si c'est une ombre, je suis conscient de sa présence.
Un fantôme.
Un fantôme.
Une ombre.
Un ombre, un fantôme, c'est ça.
Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, David, que de vous donner rendez-vous entre les pages de nos prochains romans respectifs, parce que j'ai l'impression qu'une bonne partie de la conclusion de la conversation qu'on est en train d'avoir, elle est dans chacun de nos prochains romans, à nous deux.
Des romans dont les deux écrivains ont voulu nous donner un avant-goût. David Plante.
En descendant l'allée centrale, tous les mouvements étaient lents dans l'église. Quand il s'approcha de l'autel, il eut l'impression de le voir s'éloigner. Alors qu'il se vidait complètement la tête, il ne pensait pas à ce qu'il allait accueillir en lui, mais aux Indiens. Il pensait à la façon dont il évoquait leur nom, dont il évoquait leur pouvoir d'un corbeau noir, d'un cerf qui court, d'un loup décharné, quand ils partaient à la chasse ou à la guerre. Ils n'étaient plus des Indiens, mais un corbeau noir, un cerf qui court, un loup décharné. Corbeau, ils volaient, cerf, ils couraient, loup, ils rusaient. Leurs plumes noires étaient des ailes. Des enduires leur poussaient sur la tête, leurs pieds se fendaient en deux. Leurs colliers de dents de loup agrandissaient leurs mâchoires. Ils cessaient d'être ce qu'ils avaient toujours été. Ils n'apportaient plus à l'espèce humaine.
Louis Caron.
Nous sommes au procès d'Hyacinthe Belle-Rose dans le Canard de Bois et on accuse Hyacinthe Belle-Rose d'avoir conspiré contre l'État et d'avoir voulu renverser l'ordre établi. Hyacinthe s'explique. Il y a des lois dans ce pays. Il ne faut pas faire ceci, il faut payer cela. Mais chaque fois qu'on passe à côté, même sans apercevoir, ou parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, on tresse un brin de la corde qui va nous pendre. Ce n'est pas ça, l'ordre. Et la terre, elle est à tout le monde. Elle est surtout à ceux qui peinent pour la cultiver. En tout cas, il n'y a pas de raison pour qu'elle appartienne tout entière à ceux qui ont pour métier de regarder les autres travailler. Et Dieu ? Ah, Dieu, je ne crois pas qu'il porte un uniforme de soldat et qu'il nous surveille constamment pour nous prendre en défaut. Je ne crois pas non plus que l'amour d'une femme ou d'un homme lui soit désagréable. Ça ne peut pas être ça, l'amour de Dieu. Le maître Chapard était encore une fois debout. « Monsieur le Président, la plaidoirie de cet homme n'a rien à voir avec les chefs d'accusation qui sont portés contre lui. »« C'est exact, Hyacinthe Belle-Rose, répondit le Président Sullivan. Vous devez restreindre votre défense à ce qui s'est dit dans cette enceinte depuis le début du procès. » « Vous voulez me pendre, dit Hyacinthe, mais vous ne voulez pas m'entendre. Je vais vous la dire, moi, la vérité. Non, ce n'est pas moi qui ai tué le notaire Plessis. Je le jure devant Dieu, mais oui, je suis un révolté. Mais je ne suis pas révolté contre les Anglais. Je suis révolté contre la haine, contre la misère, contre l'autorité qui abuse, contre la bêtise. Et je sais que l'injustice sera toujours l'injustice en français comme en anglais. » Il tendit les mains derrière lui pour retrouver son siège. « Vous avez fini, Monsieur Belle-Rose ? » demanda Sullivan. Hyacinthe ne répondit pas. Alors le président donna un coup de marteau symbolique sur son pupitre. « La sentence sera prononcée demain. »
Vous avez entendu le Québécois Louis Caron et l'Américain David Plante qui dialoguaient lors des rencontres d'écrivains francophones de la communauté des radios publiques de langue française en juin dernier dans le Jura suisse. Écrire le pays, une émission de la radio suisse romande Espace 2, réalisé par René Pache et présenté par Isabelle Ruff.